Vous êtes sur RTL.
Pendant encore 2 heures, nous allons donc revenir sur cette disparition du 3e président de la 5e République avec des invités, avec des réactions. Valéry Giscard d'Estaing est décédé du Covid chez lui, dans sa propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Il avait 94 ans. Bonjour Sinamir.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL dans cette commune où l'ex-chef de l'État est parti entouré des siens.
À quelques kilomètres, oui, du clocher de ce petit village de 700 habitants, dans la nuit et l'immensité de ces champs de céréales, cette France des terroirs que VGE, d'ailleurs, en quête de modernité politique, n'a jamais incarnée sur ses affiches de campagne présidentielle. C'est là que se trouve le domaine des Giscard d'Estaing, là où l'ancien président s'est éteint hier, là où sa famille et notamment ses 3 enfants et sa femme l'ont accompagné depuis la détérioration de son état de santé ces derniers mois. On y retrouve au milieu des bois un portail à la tête de cerf en fer forgé, sans bougies, sans fleurs, ni hommage devant ce domaine de l'étoile. Une sorte de moulinsard familial de briques rouges, ce château où l'ancien président s'était confiné avec son épouse Anémone Giscard d'Estaing depuis mars, là où elle a passé son adolescence, là où ils se sont tous les deux mariés religieusement. Un lieu de retraite où VGE continuait de suivre l'actualité via Internet et les journaux jusqu'à ses derniers soucis de santé. Hospitalisé plusieurs fois ces derniers mois pour une infection pulmonaire, d'abord à Paris, puis des soucis cardiaques il y a 15 jours, après avoir contracté la Covid-19. C'est ici, dans le Loir-et-Cher, que devraient se dérouler dans les jours à venir les obsèques de Valéry Giscard d'Estaing, dans la stricte intimité familiale, prévient son entourage, sur une parcelle privée et arborée à l'abri des regards, à proximité du cimetière du village, là où sa fille cadette Jacinthe repose déjà depuis 2 ans.
Sinamir à Auton dans le Loir-et-Cher. Merci Sinam, vous retrouvera bien entendu tout au long de cette matinale. Les successeurs de VGE à l'Elysée lui rendent hommage. Il a fait honneur à la France pour Nicolas Sarkozy. Il avait fait le choix de l'ouverture au monde, dit François Hollande, qui sera notre invité tout à l'heure à 7h15 sur RTL. Son septennat transforma la France, insiste Emmanuel Macron, septennat entamé en 1974. Tiens, écoutez d'ailleurs cet extrait de son discours alors d'investiture.
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus, car c'est bien le changement que je conduirai avec vous.
Alors, un septennat marqué par des réformes modernes à l'époque. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
En quoi a-t-il, comme le dit Emmanuel Macron, transformé la France, VGE ?
Eh bien, d'abord parce qu'il a fait des grandes réformes de société, des réformes qui vont desserrer le carcan qui pèse encore à l'époque sur la France, quelques années après mai 68. Et la première, c'est celle qui donne la majorité à 18 ans. Les jeunes, vous le savez, avaient beaucoup soutenu sa campagne. Il y a eu aussi le collège unique, moins consensuel. Et puis, Giscard favorise la libération des femmes avec la libération de la légalisation de l'avortement, réforme emblématique du septennat portée par Simone Veil. Il modernise les structures familiales avec le divorce par consentement mutuel. Sur le plan politique, ensuite, il donne plus de pouvoir au Parlement en permettant aux députés et aux sénateurs de contester la constitutionnalité d'une loi, une possibilité à laquelle ils ont fréquemment recours aujourd'hui. Il fait aussi éclater l'ORTF, symbole de la mainmise du pouvoir sur la télévision et la radio, pour créer plusieurs entreprises. Sur le plan européen, il œuvre pour le rapprochement avec l'Allemagne du chancelier Helmut Schmidt, et ensemble ils construiront l'Europe. Il est aussi à l'initiative des grandes réunions de pays industrialisés, les G7, qui lui ont survécu.
Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Et donc ce septennat, il s'achèvera avec l'affaire des 79 des diamants offerts par Bokassa, l'empereur centrafricain. Un septennat aussi marqué, on le sait, par le départ de son premier ministre Jacques Chirac. On aura l'occasion d'y revenir dans cette matinale qui avait claqué la porte de Matignon et qui s'achève donc avec cette défaite en 1980 face à François Mitterrand et ses mots au revoir que nous aurons l'occasion de réécouter dans cette matinale et cette chaise laissée vide à la télévision. VGE n'était jamais vraiment revenu au sommet, n'avait jamais vraiment regagné le cœur des Français. Il avait redirigé son parti, l'UDF. Il était devenu dans les années 80 eurodéputé. Il avait rêvé en vain d'une présidence de l'Europe. Ces derniers mois, il avait donc, Sinal disait, été à plusieurs reprises hospitalisé pour des soucis cardiaques pulmonaires. Il avait été ciblé par une enquête pour agression sexuelle après une plainte d'une journaliste allemande qui l'accusait d'attouchement. Bien entendu, ce matin, les réactions se multiplient. On a cité celle de ses successeurs à l'Élysée, mais il y a aussi les réactions de sa famille politique, notamment l'UDI, si proche de l'ancienne UDF de Giscard. Son président Jean-Christophe Lagarde sera avec nous tout à l'heure après 6h30. Dans cette famille de centre-droit, il y a aussi Hervé Morin, le président de la région Normandie, se souvient.
Au-delà de sa puissance intellectuelle, c'était aussi un grand fauve, quoi. Il était capable d'avoir des mots terrible et de vous fusiller en quelques secondes avec le mot juste. C'était un homme qui, en plus, très clairement, ressentait encore beaucoup l'échec de 1981, qui a été pour lui d'abord la trahison de Jacques Chirac, quoi. Même s'il avait une part de responsabilité évidente dans l'échec de 81, probablement dans son isolement progressif à l'Élysée. Mais voilà, c'était un homme qui avait une capacité d'analyse et de réflexion qui était quand même assez extraordinaire.
Hervé Morin avec Céline Landreau pour RTL. Bien entendu, cette édition spéciale, elle va se poursuivre, mais à 5h05, nous allons maintenant aborder le reste de l'actualité avec Emmanuel Macron qui veut parler aux jeunes et les convaincre. Après une succession d'affaires de violences policières, prise de parole sur le média en ligne Brut aujourd'hui, média dont un journaliste a été frappé par les forces de l'ordre. C'était il y a 10 jours lors de l'évacuation de migrants place de la République à Paris. Dans ce contexte sous pression, Jean Castex ouvre un débat. Le Premier ministre n'est pas opposé à la nomination d'un patron indépendant à l'IGPN, la police des polices. Qu'en pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur en première ligne? Eh bien, on lui posera la question. Il sera l'invité de RTL tout à l'heure à 7h40. En attendant, avec la brigade RTL maintenant, on va se pencher sur la doctrine justement du maintien de l'ordre dans notre pays avec, on le sait, des blessés, voire des décès lors des manifestations ces derniers mois, ces dernières années, des scènes qui se répètent, une confrontation qui semble désormais inévitable entre éléments extrêmes dans les manifestations et forces de l'ordre. Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Comment expliquer ce constat qui d'ailleurs pour certains opposants est un échec?
L'une des explications, c'est l'absence d'organisateurs bien identifiés. Prenez l'exemple des Gilets jaunes. Ils revendiquaient justement l'absence de porte-parole. Cela complique évidemment le dialogue avec les forces de l'ordre et rend impossible toute prise de renseignements en amont pour adapter le dispositif. L'autre point, c'est l'usage des armes, notamment les grenades et les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, qui sont responsables d'une grande partie des blessures et des mutilations. C'est pour toutes ces raisons que le ministre de l'Intérieur a décidé en septembre dernier de changer la doctrine du maintien de l'ordre, du moins en partie.
C'est-à-dire, Sébastien?
Eh bien, l'accent va être mis sur la communication avec la foule. Des équipes de police vont être mises en place avec un objectif très clair, identifier les manifestants qui peuvent être considérés comme des leaders et maintenir le dialogue avec eux. Quant aux dispersions, qui sont souvent le théâtre de débordements, le nouveau schéma de maintien de l'ordre promet là aussi une meilleure communication à travers par exemple l'utilisation de grands panneaux lumineux comme sur les autoroutes pour prévenir les manifestants d'une intervention imminente.
En ce qui concerne les armes, est-ce que des changements sont prévus?
Oui, fini les grenades Gli F4 qui contiennent de l'explosif. Dorénavant, c'est un nouveau modèle jugé moins dangereux qui sera utilisé. Quant aux LBD, leur usage est désormais mieux encadré. Depuis le mois de septembre, chaque tireur est accompagné d'un collègue pour l'aider à prendre sa décision. C'était déjà le cas chez les CRS. Et il est assez rare qu'il blesse grièvement un manifestant.
Et juste, dites-nous, comment s'en sortent nos voisins? C'est intéressant d'aller regarder à l'étranger en termes de maintien de l'ordre.
Plutôt mieux en général. La plupart ont adopté une même stratégie, celle de la désescalade pour apaiser les relations entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et cela passe par plus de dialogue. Par exemple, les panneaux lumineux dont je vous parlais à l'instant, eh bien, la police allemande les utilise déjà pour communiquer avec les manifestants. En Espagne, un département de médiation a été créé en 2011. Il est composé de policiers formés en psychologie ou en sociologie. Et le résultat est impressionnant. En 2013, malgré la multiplication des manifestations contre les mesures d'austérité, il n'y a eu ni incident grave ni blessé grave.
L'éclairage de Sébastien Rouxel pour RTL. À la une également à 5h01, les premières vaccinations. La semaine prochaine au Royaume-Uni, 800 000 doses seront disponibles. Londres a donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech. C'est une première. L'agence du médicament britannique assure avoir tout contrôlé, ne pas s'être précipité. Pourquoi le Royaume-Uni a un temps d'avance? Est-ce effectivement parfaitement sûr? On se posera la question avec la brigade RTL dans le journal de 6h. En Russie, Vladimir Poutine aussi accélère. Là aussi, la campagne de vaccination à grande échelle va débuter la semaine prochaine avec le vaccin local baptisé Spoutnik. Chez nous, la stratégie vaccinale sera détaillée à 18h. Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, le gouvernement qui prépare des opérations de dépistage massif à Saint-Étienne et au Havre. Gouvernement de nouveau sous le feu des critiques. Pendant 6 mois, la commission d'enquête de l'Assemblée, vous le savez, s'est penchée sur la gestion de la première vague. Des députés de tous bords ont multiplié les auditions et la conclusion est tombée hier. Pilotage défaillant, la France était mal préparée. Ce qui est certain, c'est que l'après-deuxième vague a aussi son lot de cacophonie. Les stations de sport d'hiver saisissent le Conseil d'État. Vous le savez, elles sont ouvertes, mais les remontées mécaniques restent fermées. Et pas question d'aller skier à l'étranger. Emmanuel Macron a mis en garde les Français. Voici le détail des mesures dissuasives. Quarantaine de 7 jours et contrôle aléatoire à la frontière. En Autriche, c'est l'inverse. Le ski est autorisé, mais les hébergements dans les stations sont fermés. Autre secteur en crise, la restauration. Un accord a été trouvé hier sur les congés payés, des congés qui s'accumulent parce que le compteur tourne quand même pendant que le salarié est à l'arrêt. L'État prendra en charge 10 de ses jours de vacances. 5h10, on passe au football avec le PSG au rendez-vous en Ligue des Champions. Victoire 3-1 hier soir chez Manchester United. Paris qui se rapproche de la qualification, Philippe Sanfourche.
Non, la bête n'est pas morte. Il voulait retrouver l'esprit de Lisbonne et la finale de Ligue des Champions que les patrons du vestiaire justifient leur statut. Neymar, buteur et créateur, rappelle ainsi que dans les grands matchs, c'est lui le détonateur et que le taulier, brassard au bras, se nomme plus que jamais Marquinhos. Au micro du groupe Altice.
Ouais, celle-là, elle est très bien, elle fait du bien pour l'équipe, faire du bien pour la confiance. Et on est dans la compétition, on est très heureux, il fallait ces 3 points ici, on savait que ça a été très important.
Pour la fin de saison et pour l'avenir de Thomas Tuchel, le coach que les joueurs n'ont pas voulu lâcher.
Nous sommes ensemble et j'ai fait des erreurs, mais je ne vais jamais arrêter de pousser cette équipe. Et je suis fier de mon équipe, je suis très heureux. En même temps, je suis très vigilant.
Car les joueurs sont exténués, certains quand même Mbappé peinent à retrouver leur niveau. Et si ce matin, les Parisiens savourent, tous savent que la saison sera jusqu'au bout un combat de tous les jours.
Philippe Sanfourche pour RTL. En revanche, l'Europe, c'est fini pour Rennes après une défaite 1-0 chez les Russes de Krasnodar hier. Ce soir, Ligue Europe, 18h55, Lille, Sparta, Prague, 21h, Nice, Bayer, Leverkusen. J'ai pensé à mes enfants et j'ai trouvé la solution. Ce sont les mots émouvants de Romain Grosjean hier dans RTL Soir. Le pilote de Formule 1 est sorti de l'hôpital au Bahreïn avec simplement des brûlures aux mains. C'est incroyable après son accident de dimanche dernier. Voiture coupée en deux et 28 secondes. Au milieu des flammes, Romain Grosjean qui espère pouvoir disputer le tout dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi dans 10 jours parce que ce sera sa dernière course. Il n'est pas reconduit dans son écurie Haas et son remplaçant se nomme Schumacher. On l'a appris hier, Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher. Le temps...